Les miroirs. Nous y sommes. Un lundi sur deux, sur Fréquence Paris Pluriel. Les miroirs. Une émission de José Nzolani. Sur la société à partir des textes des chansons. Les miroirs.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bonjour tous ceux qui nous écoutent en France, ailleurs et partout. Je suis heureux d'avoir au studio M. Andy Mavambu Yakini et M. Guillaume Makidi, des responsables de l'association des travailleurs des Congo, travailleurs des Congo-Kinshasa en France, en sigle ATCK France. Tout simplement parce que l'association ATCK France va célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de RDC. RDC, comme disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve au Congo. Et c'est une phrase qui paraît au figuré, mais au propre c'est vrai aussi. Parce que le Congo, c'était la seule colonie que les Belges avaient et que c'était devenu même une province belge. Et c'était l'espoir pour toute l'Afrique si le Congo devenait indépendant et que c'était la voie ouverte pour toute l'Afrique de devenir indépendant. Et aujourd'hui, on va parler de ça et surtout des personnes qui ont lutté pour que l'indépendance soit réelle. Bonjour Andy, bonjour Yakini.
Bonjour.
Alors, parlez-nous de l'événement que vous préparez. C'est quoi exactement?
Nous sommes en train de préparer la journée du 30 juin 2019 à Ivry-sur-Seine, non loin de la mairie d'Ivry-sur-Seine, le métro mairie d'Ivry. Et quand vous prenez le RER, l'arrêt c'est Ivry-sur-Seine.
Métro, mairie d'Ivry.
Mairie d'Ivry.
Oui, mairie d'Ivry, et c'est juste à côté.
Juste à côté.
D'accord. Alors, on va parler longuement de cet événement. Mais en attendant, nous allons écouter une chanson de Joseph Kabasele, écrite le 20 janvier 1960, lorsque l'indépendance du Congo n'était plus une fin de non-recevoir. Et c'est une chanson qui est devenue l'hymne de libération africaine. Indépendante, tcha-tcha.
Indépendante, tcha-tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha-tcha, tout va kini. Au table rond, tcha-tcha, va gagner. Au Nipada, tcha-tcha, tous oubliés. Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha-tcha.
Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de FPP 106.3 FM.
Bon, en fait, tout à l'heure, je disais que nous allons organiser la journée du 30 juin à Ivry, avec les thèmes ci-après. D'abord, il y aura deux thèmes principaux. Le premier, ça sera Kassavubu, l'homme et son combat politique. Le deuxième thème sera l'Abaco et le mouvement Kintwadi avec Simon Kimbangu. En fait, les deux thèmes vont être associés par éventuellement un film qu'on mettra à votre disposition, vidéogramme, pour que vous puissiez voir aussi l'influence de ce personnage, Kimbangu, Kassavubu, éventuellement Lumumba, mais ça sera uniquement sur Kassavubu. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué que Kassavubu est le premier président du Congo, de la République démocratique du Congo, nous a quittés il y a 50 ans. Nous avons vu...
Le 24 mars 1969.
C'est ça. Il n'y a eu aucune réaction au Congo, parce que on ne sait pas pourquoi. Alors que c'est quand même un premier président de la République. Il a joué un rôle.
Hein, et
notre
majeur.
Notre ami Guillaume Akidi, qui est ici sur le plateau, va nous brosser un peu brièvement quand même son combat politique, hein, sa vie, comment il était comme personnage. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, les jeunes, ils savent pas. Ils croient que le premier président de la République, c'était Mobutu. Hein. Bon, vous savez que les jeunes qui ont... actuellement 54 ans, en fait, qui sont nés en 1965, lorsque Mobutu a fait son coup d'État, ces jeunes-là ont 54 ans.
Son deuxième coup d'État.
Oui. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'histoire. C'est pourquoi nous voulons retracer l'histoire. Ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte, prévenir, sans connaître le passé. D'où nous venons? Qu'est-ce que nous avons fait? Comment ça a été avec l'occupant colonial belge? Hein, toutes ces situations, il faut qu'on puisse quand même retracer ça pour que la génération suivante puisse comprendre.
Effectivement, nous avons la journée du 30 juin 2019 pour notre association, la TCK France. C'est une journée que nous avons voulu marquer pour souligner l'importance du rôle joué dans la lutte pour l'indépendance par des leaders politiques, mais nous avons insisté pour cette année sur la lutte de Joseph Kassavubu, premier président de la République du Congo, qui, lui, a été un des grands acteurs pour la lutte de l'indépendance de notre pays. Et nous avons aussi voulu insister sur Kimbangu, parce que, bien avant Joseph Kassavubu, nous avons eu Kimbangu qui fut arrêté et relégué et emprisonné pour avoir posé justement ce problème de la liberté. Les jeunes ainsi que beaucoup d'autres personnes de notre pays ignorent une bonne partie de notre histoire, tout simplement parce que le pouvoir qui a été pris par M. Joseph Mobutu a bien voulu falsifier l'histoire. Or, la falsification de l'histoire n'est pas une bonne chose parce que il est question que les historiens, les jeunes, comme d'autres compatriotes de tous âges, puissent avoir une bonne connaissance quand même de l'histoire de notre pays. Cela permet aux gens, à tout le monde, de pouvoir s'imprégner de cette histoire pour mieux comprendre quels sont les enjeux, pourquoi ces leaders revendiquaient la liberté et l'indépendance. Et pour ça, nous aurons donc à développer ces deux aspects de lutte, Kimo Kimbangu et Joseph Kassavubu, le 30 juin. Et c'est une date qui est mémorable pour notre pays. C'est pour ça que nous vous invitons de venir nombreux assister à cette commémoration à notre siège à Ivry.
Oui, et puis moi, ce que je trouve quand même étonnant, parce que, bon, on ne va pas entrer dans les détails, en tout cas, ceux qui vont venir vont suivre vraiment les détails. sur la vie de ces personnes. Mais c'est quand même hallucinant, on va dire quand même quelques mots, parce que Kassavo, si je ne me trompe pas, c'est le premier à avoir posé le problème des premiers occupants et de l'indépendance immédiate. Et que quand ils sont allés dans la conférence de table ronde, il a remarqué qu'il y a tout le monde qui n'était pas là. Et il voulait l'unité nationale, même s'il était leader d'un parti qui s'appelait la BAKO, l'Alliance des Bakongo, mais il luttait pour l'indépendance de tous les Congos. Et c'est lui qui a exigé que Lumumba soit là. Et Lumumba, qui était en prison en Stalinville, donc l'actuel Kisangani, a été libéré directement vers... et il est venu directement rejoindre tous les groupes à Bruxelles. Et Kassavubu, non seulement il était le premier président de la RDC, mais c'était aussi un démocrate qui respectait les institutions. Je ne sais pas si je me trompe.
Oui, mais en fait, pour la oui. table ronde, il faut rajouter quand même, il y avait un front commun. Hein?
Oui.
C'est-à-dire, Kassavubu est vraiment à la BAKO, hein? Il a voulu, mais d'autres parties aussi, de Ngouvoulou et autres parties du peuple, ils ont fait un front commun pour que les Belges puissent au moins fléchir leur position par rapport à l'arrestation de Patrice Emery Lumumba. Donc oui. C'était un front commun.
Quoi. Oui, c'est l'ensemble des partis politiques qui se sont retrouvés à Bruxelles qui ont réclamé que Lumumba puisse être présent en tant que leader aussi d'un grand parti qui luttait pour l'indépendance. Donc, ils ont bloqué les négociations de manière à ce qu'on puisse permettre à Lumumba de venir assister au même titre que tous les autres leaders.
Assister et participer, oui.
Oui, participer. Et au même titre que tous les autres leaders qui étaient là. Et donc, il faut souligner l'aspect de l'unité nationale qui était le leitmotiv pour pouvoir revendiquer l'indépendance dans son ensemble, de façon à ce que l'on ne puisse pas subir des divisions, parce que les Belges comptaient sur les divisions des leaders pour pouvoir affaiblir le mouvement.
Et non seulement sur la division, je rejoins mon ami José Nzolani. En fait, les Belges, dans leur conception, dans leur façon de voir les choses, voulaient que l'indépendance du Congo soit proclamée plus tard.
Même 70 ans.
Oui, 30 ans après. 30
ans après.
C'était ouais. un plan de
30 ans après. Parce qu'il y avait le plan Van Bilsen.
Exactement. Exactement. Donc, en fait, lorsque Kassavubu ont appris ça, il y a eu déjà cette tendance, surtout au niveau de la BAKO, pour qu'il y ait...
l'indépendance immédiate.
Voilà, qu'il y ait cette indépendance immédiate. Effectivement, par rapport aussi, parce que le plan Van Bilsen, beaucoup de Congolais ont adhéré, c'est-à-dire une partie.
Mais comme Congolais, Jean Bolikango.
Exactement, avec quelques...
Les Maloula, tout le monde.
La conscience, l'éveil de la conscience.
Oui, voilà.
Ces gens-là, ils ont même fait un manifeste.
Manifeste de la conscience africaine.
De la conscience africaine.
Avec Ileo, Maloula, Ngalula et les autres. Ouais. Donc, ils avaient fait ce manifeste où ils approuvaient carrément le plan Van Bilsen.
Alors, Kassavubu
a fait une contre-manifeste avec la BAKO pour demander l'indépendance immédiate et qu'il n'avait pas besoin d'attendre encore 30 ans.
Mais alors, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi 50 ans avant sa disparition, 50 ans de sa disparition, l'actuel gouvernement ou les autorités actuelles ont passé ça sous silence, alors que la plus longue avenue de Kinshasa s'appelle Kassavubu. Une des plus importantes communes du pays s'appelle Kassavubu. Il y a le nom de Kassavubu un peu partout au pays.
Il y a même son monument.
Il y a même son monument, mais les jours de ses 50 ans, le président, il me semble, il a préféré aller s'incliner devant le monument de victimes de génocide de Rwanda, je crois.
Oui, mais c'est-à-dire le problème, c'est le problème du recadrage et le problème de l'histoire. Nous avons ce problème-là. Il n'y a pas que les dirigeants, même nos compatriotes en général. Nous voulons beaucoup négliger l'histoire d'un peuple. Regardez, par exemple, que ce soit au niveau de pays d'ici, les génocides de juifs, ce qu'on appelle... L'Holocauste. On rappelle toujours. Il y a des films qui passent les jours de l'anniversaire. Mais là, vraiment, c'est regrettable que le jour de l'anniversaire de la mort de, du premier président de la République démocratique du Congo, qui ait ce silence-là incroyable. Heureusement, nous, dans notre association, dans notre site atck.org, nous avons fait un article. Les gens peuvent aller le lire pour donner l'importance et rendre hommage à notre président de la République démocratique du Congo, le tout premier.
Et puis, oui.
Ben, je pense que le fait de pouvoir ignorer ou de pouvoir falsifier l'histoire de manière volontaire, d'ailleurs, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour le pouvoir et pour le peuple et pour le pays. Parce que nous devons pouvoir avoir cette capacité de pouvoir voir les choses de manière tout à fait logique et normale. Il y a la chronologie logique de notre histoire qui voudrait que on puisse citer et glorifier ceux qui ont pu donner de leur vie et qui ont lutté pour le pays. Ensuite, nous devons aussi apprendre dans tout ce qu'ils ont fait, dans leur lutte et dans leur manière de gouverner aussi, comment nous pouvons tirer des leçons de tout cela.
Et est-ce que moi, il y a beaucoup de Congolais, enfin, des gens, ils perçoivent Lumumba, Kasavubu comme si c'est quelqu'un de faiblard, quelqu'un qui y avait peur. Est-ce que c'est une vision vraie? Et puis il y en a qui les reprochaient d'être honnêtes, trop honnêtes, parce qu'il était un ancien séminariste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'on veut coller de lui, de quelqu'un de faiblard, de Yuma, en fait, comme on dit?
Ouais, l'image, c'est une chose, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand nous avons accédé à l'indépendance en 1960, nous étions régis par la loi fondamentale qui était calquée quasiment sur la constitution belge. C'est-à-dire que notre président de la République, Joseph Kasavubu en l'occurrence, n'avait pas de pouvoir réel. Il n'avait qu'un rôle d'inauguration de chrysanthème, comme le roi Baudouin, comme le roi de Belgique en fait. Donc, le gouvernement, c'est lui qui avait le vrai pouvoir de diriger le pays. Parce que la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale de l'époque, ne donnait pas au président de la République de pouvoir nécessaire. Mais malgré cela, le président de la République respectait scrupuleusement justement cette Constitution. Pourquoi? Parce que c'est celle-là dont nous avons hérité à l'indépendance. Mais il faut dire aussi que même pendant la table ronde à Bruxelles, juste avant l'accession du pays à l'indépendance, Kasavubu avait posé ce problème de pouvoir constituer un gouvernement.
Une assemblée constituante.
Une assemblée constituante et un gouvernement provisoire avec justement une constitution qui serait élaborée à la mesure du pays, qui tiendrait compte de la volonté réelle du peuple, des dirigeants et de la manière dont ils veulent voir diriger le pays. Malheureusement, ils n'avaient pas le temps et puis ça a capoté. Et ensuite, ils se sont butés aussi sur le fait qu'il y avait des visions différentes sur la structure interne du gouvernement, c'est-à-dire la manière dont on devrait voir les choses et surtout la manière dont les pouvoirs au niveau du pays, c'est-à-dire entre les fédéralistes, ceux qui se disaient fédéralistes et ceux qui se disaient unitaristes, il y a eu un vrai conflit. D'ailleurs, ce conflit s'est prolongé par la suite avec l'arrivée au pouvoir de Lumumba. Ce conflit a perduré. Et après, nous avons connu justement une période de troubles, de rébellions, avec l'assassinat du premier ministre Lumumba. Voilà. Et ça a débouché par la suite, après le gouvernement de M. Joseph Ileyo, qui était de passage, justement, après les commissaires généraux. Il y a eu le gouvernement de Cyril Adoula. Et Cyril Adoula, qui a fini par déposer sa démission, d'ailleurs, parce que la rébellion gagnait tellement le pays et qu'il n'arrivait pas à juguler cette rébellion. Et nous avons fini par aboutir, en 1964, à Loulabour, à constituer la vraie constitution qui était élaborée par les Congolais. Et à partir de 1964, quand cette constitution a donné un peu plus de pouvoir au président de la République et qu'a redéfini le pouvoir des uns et des autres dans les institutions du pays, Kasavubu a pris une autre tournure, contrairement à ce que les gens disaient qu'il était disons, faible ou qu'il était trop honnête, parce qu'il se voulait être un président exemplaire en tant que premier président du pays.
Ah, d'accord. C'est-à-dire à partir de la constitution de 1964 qu'on devait avoir vraiment de vrais pouvoirs.
Au président de la République. Le président de la République avait de réels pouvoirs.
Tout à fait.
Donc, oui, oui, mais il y a une petite chose qu'on va quand même mettre en exergue. C'est-à-dire, c'est pas le fait... Quand vous dites que ça vous faiblard, tout ça, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Non, ce n'est pas moi qui dis. Hein,
oui, 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 mais bien sûr, vous avez rapporté. Mais attendez, mais ce n'est pas du tout. C'est que mon ami Guillaume a dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, en 64, il avait d'autres pouvoirs. Mais même avant. Mais avant, les Belges craignaient Kassavubu.
Il était l'homme le plus dangereux de la colonie.
Les Belges le craignaient, il n'était pas si faiblard que ça. Les Belges le craignaient, même en 58, les Belges n'ont pas voulu qu'il aille à Accra.
À la conférence d'Accra.
Oui.
Mm-hmm. Il était le seul leader qui était interdit d'aller à la conférence d'Accra.
Oui, pardon. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il avait quand même une force. Et à la Bakou, comme il était président de la Bakou, si Kassavubu vous dit un mot, tous les membres du parti de la Bakou suivaient. Donc, quand il donnait l'ordre, par exemple, on ne vote pas, Betoktou Votaro, directement, tout le monde suivait. Donc, il avait une influence très, très, très forte pour dire que... d'ailleurs, moi, je considère Kassavubu comme si c'est lui l'homme du 4 janvier. 4 janvier, c'est l'année. Il y a eu des émeutes, c'est Kassavubu qui est l'homme du 4 janvier.
Alors, rappelons-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 4 janvier? Est-ce que c'est le fait d'un match de foot ou d'un meeting? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Non, il n'y avait pas. Il faut dissocier les deux choses.
Voilà.
En fait, au départ, c'était un meeting que l'alliance de Bas-Congo voulait faire avec Pindi, qui était le bourgmestre de Kalamu, parce que ça se passait à la place des Imika, dans la commune de Kalamu. Mmh. Donc, ils ont fait appel à tous les membres et tous les Congolais de Kinshasa, des Kinois, Léopold Villois à l'époque. Donc, lorsque Labako a voulu faire son meeting, évidemment, bien avant, les Belges ont dit que non, si on laisse ces gens-là faire le rapport de Accra, en fait, c'était le rapport que les Diomi qui étaient partis.
Diomi Ndongala.
Non,
Gaston.
C'est le père de Diomi Ndongala.
Diomi Gaston.
Oui. Qui était gouverneur et qui était bourgmestre d'Engiringiri, de la commune d'Engiringiri.
Et puis bourgmestre de
Kalamu.
De Kalamu.
Voilà. Il habitait à Yolo, vers Ezo. Alors donc, lorsque ils ont voulu organiser ça, les Belges ont dit non. Il faut qu'on arrête les meetings, que le meeting n'ait pas lieu. Mais les gens étaient déjà sur place, à la place des Imika. Mm-hmm. Et donc, même Kassavubu ne pouvait plus faire marche arrière. Mais il est venu pour leur dire, le pouvoir colonial a décidé qu'on fasse le meeting le 13. Après, il y aura le discours du roi et puis on va faire... Mais le peuple a dit non, nous voulons l'indépendance.
Ouais.
Alors, ce mouvement-là, que les gens qui criaient, qui voulait l'indépendance, a été accentué d'abord par un commissaire blanc.
Trudeau.
Oui, qui a tiré en l'air au départ. Et ça a dispersé les gens. Bon, alors maintenant, les gens qui étaient au stade.
Qui sortaient
après match.
Du stade.
Et surtout que c'était Vita Club qui jouait contre Mikado et Vita Club avait perdu. Donc ces gens-là étaient aussi en colère. Donc, ils se sont mis ensemble. Ils sont venus voir les gens à Imika.
À l'époque, c'était Victoria Club, hein. C'était pas encore Vita Club.
Oui, c'était V-Club. On disait V-Club.
Ouais, V-Club.
Bon. Donc, en ce moment-là, ces gens-là sont venus du stade. Ils ont rencontré les manifestants qui étaient en colère, qui allaient vers Fokombel. Fokombel, c'était les quartiers où habitaient les Portugais. Il y avait du commerce. Ils allaient casser. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, les gens disent que c'est à cause du match que les gens... Non, le match n'a rien à voir.
Le match n'était qu'un événement fortuit qui a rencontré déjà une situation politique, la véritable situation politique qui était sur place. Et le fait que, quelques jours avant, Lumumba, qui lui avait participé à la conférence d'Accra, avait aussi fait un rapport, un meeting, à la place de la Victoire, où il a dû raconter et faire vraiment un vrai rapport sur tout ce qui s'était dit sur leur participation pendant qu'ils étaient partis à la conférence d'Accra convoquée par Nkrumah et les leaders politiques de l'époque.
Indépendantistes,
parce qu'il faut aussi souligner qu'il y avait des pays comme le Ghana qui étaient déjà indépendants.
Depuis 1957,
oui.
Premier pays de l'Afrique noire
donc,
à avoir indépendance.
Kwame Nkrumah avait convoqué cette conférence-là de leaders africains pour pouvoir justement leur parler de véritables raisons et de la valeur du fait que il faut réclamer l'indépendance et la liberté. C'était donc une chose totalement réelle et légale et légitime pour un peuple pour l'autodétermination. Bon, alors, le problème, c'est que il faut souligner le fait que pourquoi les Belges avaient interdit les meetings. Parce qu'au départ, ces meetings étaient autorisés. Mais quand ils ont vu le meeting organisé par le Lumumba à la place de la Victoire, ils ont commencé à craindre que si jamais Kasavubu, qui à l'époque était le leader le plus populaire dans la ville de Kinshasa, organisait un meeting encore, alors que c'était à cette époque-là l'homme le plus craint par l'administration coloniale, donc ils se sont dit ça risque de s'embraser. Alors ils ont interdit malheureusement à la dernière minute l'organisation de ces meetings. Et c'est ça qui a provoqué les désordres par la suite.
Alors là, c'est bien, on va continuer la discussion. Nous venons d'écouter Indépendant Tchatcha. Et après, quand cette chanson a été créée, il y a certains participants belges qui ont dit, mais attendez, cette conférence, cette réunion, il n'y a pas que les Congolais, nous aussi. Vous ne nous avez pas cité dans la chanson. Et Kabasele était obligé de faire une autre chanson, Table Ronde, où il cite certaines personnes qui n'ont pas été citées dans Indépendant Tchatcha. Il faut souligner quand même cette chanson, Indépendant Tchatcha, c'était une improvisation. Mais cette improvisation, c'est une chanson qui est devenue l'hymne de libération africaine. Et ça a été même repris quelques années plus tard par le groupe Tabou Kombo pour fêter les bicentenaires de l'indépendance de Haïti. Maintenant, nous allons écouter Table Ronde, Joseph Kabasele et l'African Jazz 1960.
Thank you. Nous jeunes, nous écoutons fidèlement.
José Zolani sur... sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
Nous venons d'écouter Table Ronde, une chanson de Joseph Kabasele. C'est une chanson interprétée par la même équipe qui a interprété la chanson Indépendante Tcha-Tcha. Donc, ils étaient sept à Bruxelles au mois de janvier 1960. Nous faisons cette émission parce que l'association ATCK, Association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France, célèbre l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui était, cette indépendance ne concernait pas que la République démocratique du Congo, mais c'était un espoir pour toute l'Afrique, particulièrement l'Algérie, qui regardait de près l'indépendance du Congo, parce que eux, ils luttaient aussi pour leur indépendance par rapport à la Belgique. Et le fait que le Congo soit devenu indépendant, ça donnait un espoir pour que dire non, nous sommes sur la bonne voie. Mais la journée du 30 juin 2019 va coïncider aussi pour rendre hommage aux personnes qui ont fait que l'indépendance soit réelle. Ces personnes, même si les gens essaient de falsifier l'histoire, les faits sont têtus. Les faits sont têtus, ils sont là. Joseph Kasavubu nous a quittés il y a 50 ans. Et que certaines personnes essaient un peu de faire oublier son combat. Et nous, on ne veut pas faire oublier son combat comme les combats de Simo Kimbangu. Simo Kimbangu, on voit souvent l'aspect spirituel. Mais on oublie aussi qu'il était aussi un combattant pour la conscience. La conscience des libérations, mais par la non-violence. Alors, on continue notre émission avec Andy Mavambo Yakini et Guillaume Makidi.
Oui, ce que vous avez dit, c'est exactement ce que nous pensons.
Et l'adresse, rappelez l'adresse où ça va être encore.
Oui, l'adresse, c'est 6 place Gérard Philippe, 94 200, Ivry-sur-Seine. Le métro, c'est Mairie d'Ivry. Terminus. Et si vous venez par RER, vous descendez à Ivry-sur-Seine et vous arrivez vers la mairie. Hein, ceux qui ont des voitures, il y a le parking de la mairie qui est à votre disposition. Donc ce que vous avez dit, José, c'est très très important que nous puissions voir qu'est-ce qui a été le leitmotiv qui a animé nos dirigeants à l'époque. Effectivement, il y a Simo Kimbangu qui est là, qui a joué un rôle. Il y avait Paul Panda Faranan à Bruxelles, en Belgique, qui était un FC.
Qui est mort en 1930.
C'est ça.
Oui. Ouais. Mais c'était un des leaders de conscience. Il était, il était avec Blaise Ndiaye, le premier député noir africain, pas noir, ici en métropole. Il était avec le professeur Webe Du Bois, hein, William Edward Berger Du Bois. Le mouvement panafricanisme, hein. Voilà.
Bon, alors, lui, exactement. Lui, il était en Belgique. Hein. Il a il a eu même des contacts avec les gens de Bandung. Après, il paraît bien avant. Hein. Donc, alors, il y avait une autre personne qui était au Congo. Hein. En fait, c'est Simo Kimbangu que nous avons beaucoup plus apprécié dans sa façon de penser vis-à-vis du pouvoir colonial, parce que le pouvoir colonial pour venir au Congo, il a utilisé l'Église catholique. Et l'Église catholique, le curé qui venait pour le roi, c'est pas le père qui venait pour le roi, avait eu des missions pour pouvoir coloniser, pour favoriser la colonisation, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Simon Kimbangu étant travailleur à la huilerie du Congo belge, et en même temps, il lisait la Bible. Mais il disait, mais il y avait une contradiction.
Il était devenu catéchiste, même.
Ah ben oui, il a remarqué que non, il y a une contradiction entre ce que nous disent le prêtre, les colonisateurs et le prêtre d'ailleurs, par rapport à la Bible. Ce qu'ils font, c'est pratiquement l'esclavage qui continue, hein, avec sa vigueur, avec des atrocités. Et Simon Kimbangu disait non. Ça peut pas continuer. Les injustices, ça suffit. Il faut que l'homme noir puisse se mettre debout. Et ça fait peur aux colonisateurs. Il a été arrêté. Il a fait la prison pendant 30 ans. Et le monde occidental n'en a même pas parlé. Personne n'est parlé. Rien. Personne. Alors, je vous dis, personne. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui ne connaissent pas Simon Kimbangu. C'est pas de leur faute.
Exactement.
Parce que l'histoire a été occultée, complètement cachée pour que les gens ne savent pas. Or, lui, il a fait 30 ans. Mandela n'a fait 27 ans. Donc les deux, en fait, Mandela connaissait, il savait aussi qu'il y avait Patrice Lumumba, Kimbangu qui existait. Donc, ce qui s'est passé, à cette époque-là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'obscurantisme total.
Oui, mais bon, cet obscurantisme, on peut le comprendre de la part du colonialiste lui-même, parce qu'il n'avait pas intérêt à promouvoir ni à parler de Kimbangu et promouvoir sa lutte parce que ça allait à l'encontre de leurs objectifs. Kimbangu, hein, il était plutôt chez les protestants avec les baptistes et BMS. Et quand il a commencé justement...
Baptist Missionary Society.
Et quand il a commencé justement à apprendre et à lire la Bible, c'est là où il a commencé à découvrir que le message que contenait la Bible, qui enseignait l'amour, la fraternité des peuples était parfaitement en contradiction avec la politique pratiquée par les colons qui sont arrivés chez nous. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à utiliser la religion comme arme politique pour montrer cette contradiction qu'il y avait entre le message biblique qu'on prétendait nous inculquer sur... effectivement l'amour, la fraternité entre les humains, et la pratique de la colonisation telle que les colons belges le faisaient. Alors, c'est là où il a commencé maintenant à prendre conscience et à conscientiser justement les gens qui étaient autour de lui pour montrer qu'il y avait autre chose que ce que ces gens-là disent. C'est en réalité, ils avaient d'autres objectifs qui n'avaient rien à voir avec la religion. Parce que l'amour qu'on prêche dans la Bible et en contradiction fondamentale avec ce que les colons faisaient.
Et non seulement cette contradiction, mais il disait aussi que le noir est capable de faire quelque chose dans leur pays de mieux. C'est-à-dire, même Lumumba l'a repris aussi, c'est-à-dire l'homme noir, s'il est libre, il peut faire quelque chose. On en parlera parce qu'aujourd'hui on parle de l'indépendance, on va quand même dire que l'indépendance continue, c'est-à-dire cette lutte-là continue, parce que oui, notre indépendance a été détournée de son contenu.
Oui, mais alors, je reviens un peu sur... parce qu'il y a un lien quand même entre Kasavubu, Kimbangu, Lumumba et les autres leaders. Il y a une chose quand même, il faut comprendre. On venait de parler tout à l'heure de Paul Farana Pandi, de
Faranana.
Faranana, on a parlé de Ndiaye, hein, Blaise Ndiaye, les Sénégalais.
Sénégal,
hein,
oui.
On a parlé de... des mouvements de panafricains. Parce qu'il faut savoir, Kimbangu, quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à faire son ministère par la non-violence, ça a fait tellement peur aux autorités belges, sont allés les chercher. On ne l'a pas trouvé, mais c'est lui-même qui s'est livré au mois de septembre. Et curieusement, au lieu que ce soit un tribunal civil pour les juger, parce que si ce sont des problèmes de religion, c'est civil, mais c'est un cour martial, un tribunal militaire qui s'est réuni à Mbanzangongo, qui l'a jugé. Il a été condamné à mort. Hein. Mais, ce que les gens ne savent pas, grâce aux interventions de la diaspora noire du monde entier, aussi bien africain que antillaise et américaine, on parlait de Farana, qui avait des amis.
Dubois.
Farana, qui avait des amis. Parmi les Belges, entre autres, Émile Vandelverde, qui était devenu après Premier ministre. Il y avait Dubois, qui ont fait une intervention auprès des autorités belges.
Du roi de Belge.
Du roi de Belge, Albert Ier, hein, qui a communié sa peine de mort à une peine à perpétuité. Mais il y a une chose quand même, je voulais quand même dire, parce que pour voir la clairvoyance de ces messieurs-là, Simon Kimbangu, un jour, hors antenne, M. Makidi, vous me disiez que quand on a arrêté Kimbangu, il y a des mamans qui pleuraient, et s'est retourné vers ses mamans. Qu'est-ce qu'il leur a dit?
Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où Kimbangu était arrêté et que maintenant le peuple qui était autour de lui, qui pleurait avec leurs enfants, ils se sont rendus réellement compte que leur leader était arrêté et qu'on va pouvoir l'amener ailleurs vers une destination inconnue. Alors ses mamans se sont mises à l'interroger pour dire « Tu nous laisses maintenant comme ça ?» Sans leader, toi tu pars. Bon, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Et tu nous as toujours dit que nous serons un jour libres. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus ne sont pas venus dans leurs réelles intentions pour dire qu'ils viennent prêcher l'amour. En réalité, ils sont venus pour d'autres objectifs, c'est-à-dire nous occuper, nous coloniser et nous exploiter. Alors, comment est-ce que nous saurons que nous serons libres un jour? Parce que vous nous dites que nous finirons par nous libérer. Mais le jour viendra. Comment nous saurons? C'est alors que Simon Kimbangu a parlé en parabole. Il se retourne vers ses mamans et son peuple. Il leur dit que, voilà, quand vous verrez que les enfants que vous portez dans vos bras là, qui pleurent, commencent à lire et à parler les langues que les gens qui m'ont commandé parlent, et commencent à lire, sachez que le temps de votre libération est proche. Voilà ce qu'il avait laissé comme message. C'était pour montrer que, effectivement, quand les gens vont commencer à comprendre par la lecture de ces Bibles-là, à commencer à comprendre ce que ces gens-là vont commencer à enseigner et qu'ils trouveront les contradictions que lui-même a trouvées, ça sera donc le moment où naîtra la conscience de cette libération.
Oui, j'allais ajouter quelque chose, José. Mmh. Tout à l'heure, vous avez dit le lien qu'il y a entre Kimbangu, Lumumba et Kassavubu. Mais en fait, ce lien-là, moi, je pense que c'est la liberté.
C'est la liberté,
c'est tout à fait. Être libre dans son pays.
Bien sûr.
Parce que l'esclavage, c'est quand même humiliant. C'est souffrant.
Oui.
Et c'est exploitant. On exploite les gens. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'Europe et l'Amérique se sont développés par ça.
Oui.
Alors nous, nous sommes aujourd'hui, et jusqu'à ce stade-là, embryonnaires. Donc ça ne va pas. Donc eux, ils ont déjà dit non. Que ce soit Lumumba, que ce soit Kassavubu, la liberté, il faut qu'on soit libre.
Mais c'est
la
valeur.
On doit montrer au monde ce que peut faire l'homme noir s'il est en liberté, s'il est libre.
Et la liberté, c'est la valeur pour laquelle tous les peuples du monde ont toujours lutté.
On va écouter aussi une chanson qui parle de la liberté.
Oui, mais attendez, enfin, je vais ajouter une chose là. Comme mon ami Makidi Guillaume vient de dire, mais il faut quand même qu'on dise que ce jour-là du 30 juin, le dimanche 2019 à Ivry, à 14h, hein, parce qu'on n'a pas donné l'heure, à 14h30, vous venez nombreux parce que c'est lui qui va parler aussi de Kimbangu. Il s'appelle Serge Datantou. Mais il a fait des bandes dessinées sur Kimbangu. Oui. Bon, il faut que vous venez pour voir d'abord les bandes dessinées qu'il avait fait, parce que là, il est en train de compiler toutes ces bandes dessinées pour qu'il fasse un grand livre qui demande d'ailleurs un investissement. C'est pourquoi on vous demande à tout le monde de venir soutenir, de faire un lever des fonds pour qu'on puisse arriver à faire
un film
et dans les cinquantenaires les centenaires de son combat, ça sera en 2021 parce que 1921-2021, 100 ans, il faut qu'on arrive à faire de ça un événement très très important, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique et le monde.
Alors, avant d'écouter la chanson, quelques mots par rapport à ça. Effectivement, Serge Diantante, qui est un auteur indépendant, veut garder son indépendance, on parle de l'indépendance. au lieu qu'il soit pris en étau par les pouvoirs financiers, il demande au lecteur de financer ce travail. Il a déjà commencé à faire un dessin animé sur l'histoire de Simon Kimbangu. Et ensuite, il va faire une bande dessinée de près de 400 pages sur l'histoire de Simon Kimbangu. Et la recette de ça va en partie contribuer à la création du musée Simon Kimbangu en Kamba,
au Congo.
Et là, pour participer, vous allez sur le site serge-diantatu.com. Mais de toutes les façons, vous verrez les coordonnées dans les sites de l'ATCK, atck.org. Et là, Kimbangu, Lumumba, Kasavubu, ce sont des immortels, et que nous allons écouter Franklin Bukaka chanter Les Immortels, quelques mots, et il dit que toute l'Afrique est en deuil parce qu'on est en train de tuer ses enfants. Et là, c'est ce qu'il dit. Et ce sont les arrangements de Manu Dibango, Les Immortels, Franklin Bukaka.
Afrika mo pimpae, to kangi maboko, to zali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kote kamae, na banguna. To lati mokuya, ata malobate. Congo na pas d'Afrique, Maléli. Afrika ma bimpae, to kangi ma boko, to zali kota lae. Bana basili na kokende. Bana basili na kote kamae, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Kongo na bana Afrika baleli. Oh, medi ben baka, medi nzela na yo ya batonyonso. Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umniope, Medinzela na yo ya Felix Mumie, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choy, Medinzela na yo ya Tsoki. Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Oh oh, ya tiers monde. Oh oh, ya libération, ya ma peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme va mourir un jour.
Alia, alia, oh maman.
Si vous avez
avez des artistes que vous souhaitez écouter, contactez José Nzolani, FPP 40.
1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante.
Au son de la rumba, tout attaché, @hotmail.fr.
Ou encore nous téléphoner au 06 32 05 62 29.
Toujours à l'écoute des fréquences Paris Pluriel, l'émission Les Miroirs pour annoncer l'événement qui va se passer à Ivry-Sicène, 6 place
Gérard Philippe,
à Ivry, juste en face de la mairie, d'Ivry, et où on va avoir non seulement des gens qui vont intervenir, il y aura aussi des artistes et musiciens qui viendront aussi chanter en live. Et puis, il y a nos publications et les auteurs seront là pour dédicacer, entre autres Serge Diantanto et les autres qui vont dédicacer leurs livres. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, vous pouvez l'écouter en intégralité dans les sites de mon site nzolani.net ou dans le site de ATCK, c'est atck.org. Il y aura un podcast là-dessus et toutes les coordonnées de tout ce que nous venons de dire. Bon, là, il nous reste très peu de temps avant d'écouter la dernière chanson. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter?
Ah oui. L'Association des travailleurs du Congo-Kinshasa a une publication qu'on appelle Ngonga Ebeti, c'est-à-dire l'heure du choix. Ce journal sera aussi vendu avec une modique somme de 2 €. Nous pensons que vous viendrez nombreux pour pouvoir acheter parce qu'il y a pas mal de choses, des articles de fond. Ensuite, il y aura aussi un cocktail vers la fin pour
l'amitié, pour continuer la discussion sous forme informelle.
Voilà, on appelle ça un cocktail patriotique. De façon qu'on puisse poursuivre nos discussions autour d'un verre. Et nous demandons à ce que les compatriotes, non seulement congolais, mais les Africains,
et tout le monde,
les Européens aient pris des libertés de progressistes, de venir nombreux pour venir soutenir la lutte. J'ai dit bien que la lutte continue, parce que l'indépendance a été détournée de son sens, vidée complètement de son contenu. C'est pourquoi nous disons indépendance entre guillemets, parce que nos pays sont encore à lutte. Vous voyez que 59 ans après, nous sommes toujours dans une pauvreté impossible. Donc Lumumba, Kazavubu, Kimbangu n'ont pas souhaité cela. Eux, ils voyaient autre chose. Ils voyaient que le pays devait être au sommet. Voilà ce que je vais dire.
Oui, effectivement, nous vous invitons à venir très nombreux parce que cela va nous permettre non seulement de vous montrer les images et les interventions que nous avons préparées pour commémorer cette journée, mais aussi ça permet à tout le monde, c'est-à-dire les invités, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre pays, de pouvoir participer à cet événement et d'apporter éventuellement leur contribution au travers des réactions, au travers des analyses et au travers de conclusions que vous pouvez tirer. Comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Andy Mavambou, la liberté, l'indépendance, ce sont des valeurs qui sont perpétuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. Il faut toujours lutter pour la liberté et surtout dans ce qui nous concerne au Congo et même en Afrique dans son ensemble, c'est de comprendre le sens de la lutte pour que nous ayons une véritable indépendance de nos pays.
Voilà, donc à 14h30, rendez-vous 14h30, les 30 juin, dimanche, à Ivry-sur-Seine.
Et bon, malheureusement, le temps nous est compté. Donc la discussion, on va les poursuivre les 30 juin, comme on a dit. Et pour dire que ce combat n'est pas seulement un combat africain ou congolais, Nous avons écouté au début de l'émission la chanson Indépendant Tcha-Tcha. Maintenant, nous allons écouter la même chanson, mais version antillaise, version haïtienne, les Tabou Combo qui vont nous chanter Rumba Liberté. Et pour ceux qui veulent contacter ATCK, vous allez dans le site d'ATCK.org, vous cliquez sur Contact et vous envoyez votre message, on vous répondra. Voilà. Rumba Liberté, les Tabou Combo. Pour le bicentenaire de l'indépendance de Haïti, première république noire de l'histoire. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci.
Artistes que vous souhaitez écouter, contactez José Nzolani, FPP 40.
1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante.
Au son de la rumba, tout attaché, @hotmail.fr.
Ou encore nous téléphoner au 06 32 05 62 29.